13 au 17 septembre. Pop Montréal fête son Sweet 16. Du 13 au 17 septembre, Pop Montréal fête son Sweet 16. Pour l'occasion, on t'offre la chance de gagner des billets pour les concerts de Waits Blood, Royal Trucks, Sweet Shop Boys, The Deers et The Mighty Diamonds ou encore William Basinski. Pour participer, dis-nous quel était ton groupe préféré lorsque tu avais 16 ans. Rends-toi au www.choc.ca dans l'onglet concours pour avoir toutes les instructions de participation. Bonne chance! Pop Montréal célèbre son Sweet 16 et tu es invité. Joins-toi à la fête du 13 au 17 septembre avec des concerts, des arts visuels, des films, de l'artisanat, des conférences, un barbecue et beaucoup plus. Viens profiter d'une programmation éclectique et explosive avec plus de 400 groupes de musique, dont Ostra, Royal Trucks, Sweet Shop Boys, Trio Jordan and the Mighty Diamonds. Rendez-vous au www.popmontréal.com pour consulter la programmation complète et réserver vos billets.
Tous les vendredis et samedis, le Bar Le Record vous convie à ses soirées DJ présentées en collaboration avec Choc.ca. Venez vibrer au son des années 40 à 70. Soul, funk, rock'n'roll, yéyé, gogo et bien plus. Le tout joué exclusivement sur vinyle. Pour l'occasion, la pinte de bière est à 5,75. Ouvert tous les jours, le Bar Le Record est situé au 7622 rue Saint-Hubert, à deux pas du métro Jean Talon. Visitez notre page Facebook pour vous tenir informé de nos différents événements et promotions. Les productions Nuit d'Afrique vous présentent le groupe Danakil, solide ambassadeur du reggae français, en concert le vendredi 29 septembre au Théâtre Fairmount pour la sortie de son nouvel album. Billets en vente sur théâtrefairmount.com.
J'ai toujours su qu'il fallait te suivre, de toute façon nos destins étaient liés.
What are the day? Ici Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de Choc.
Pop Montréal célèbre son Sweet 16 et tu es invité. Joins-toi à la fête du 13 au 17 septembre avec des concerts, des arts visuels, des films, de l'artisanat, des conférences, un barbecue et beaucoup plus. Viens profiter d'une programmation éclectique et explosive avec plus de 400 groupes de musique, dont Ostra, Royal Trucks, Sweet Shop Boys, Trio Jordan and the Mighty Diamonds. Rendez-vous au www.popmontréal.com pour consulter la programmation complète et réserver vos billets.
C'est la claque, c'est bon. C'est la claque qui me paye pour ça, là, du monde.
On envisage une autre méthode. Le sabotage. De quoi? Le sabotage, généralement.
L'enjeu de la violence, c'est vraiment lié au moment contextuel historique aussi.
C'est-à-dire qu'on ne s'en parle pas de même, on ne s'en
parle pas. Vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la quatrième saison d'Action en direct. Action en direct, c'est une émission qui traite à chaque deux semaines d'actualités syndicales, de conditions de travail et de culture et d'histoire militante. Notre objectif est de montrer le point de vue des travailleuses et travailleurs et de discuter d'enjeux qui les concernent directement à travers des chroniques et des entrevues. On ne croit pas à la neutralité. Ainsi, on prend le parti des précaires, des sans-emploi, de celles et ceux qui se font couper et qui sont les premières cibles de l'austérité. On souhaite également montrer comment ces gens s'organisent pour plus de justice sociale. Notre émission vise donc aussi à diffuser les initiatives de syndicats et de groupes politiques et, à l'occasion, de présenter des capsules sur leur histoire. Donc, de retour aujourd'hui, notre émission a comme thématique le retour des vacances. Nous allons avoir le retour aussi des pétages de coche d'Éric. Je vais vous faire une chronique sur mon voyage en Gaspésie. Et nous avons Adam aussi qui est en studio, qui va nous parler de ses vacances.
Oui, en fait, pas juste de mes vacances, d'un conflit, de deux conflits de travail dans le Bas-Saint-Laurent aussi.
Et Marc-André, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui?
Je vais vous parler d'une cérémonie atikamekw à laquelle j'ai eu la chance d'assister dans le coin de Trois-Rivières.
Donc, on va enchaîner tout de suite avec la chronique de Marc-André.
Bon, ben, merci beaucoup. Et comme vous le savez peut-être, les Atikamekw forment une communauté de quelque 12 000 habitants répartis dans trois villages, Wemotachi, Manawan et Opichiwan. C'est un peuple de la famille algonquienne qui a donc des origines nomades. Depuis le début de l'été, il y a des dizaines de membres de ces trois communautés-là qui ont parcouru le pays à travers la rivière Saint-Maurice, donc en canot. Tout l'été, ils ont littéralement descendu la rivière au complet dans le but de créer des liens entre eux, entre les différentes trois communautés, mais aussi entre les jeunes, entre les vieux, entre les hommes et les femmes, etc., etc. Et ils se sont retrouvés tout l'été sur différentes plages où ils étaient célébrés, où les gens des communautés allaient les voir pour les encourager, les féliciter, les appeler à continuer et tout ça. Donc, ça prend la forme de fêtes. Et moi, ben le 9 septembre dernier, ben j'y étais à Trois-Rivières pour l'arrivée de ces Atikamekw-là qui ont descendu la rivière. Et je peux vous dire que je me considère très chanceux d'avoir assisté à cette cérémonie-là.
Alors, c'était comment justement cette cérémonie? Raconte-nous ça avec tes mots, s'il te plaît.
C'était très spécial parce que, comme vous le savez peut-être, comme vous êtes certains, mes amis, je viens de finir ma thèse sur la pensée politique autochtone, donc de me retrouver sur les lieux même pour une cérémonie spirituelle, eh bien, j'ai vraiment eu l'impression d'être propulsé hors de mes livres pour me retrouver dans le réel et j'ai trouvé ça fort intéressant. La cérémonie, d'abord, elle se déroule autour d'un endroit qu'on appelle le feu sacré, qui a été en fait rebaptisé par le Parc national de la Mauricie la Fontaine du Diable. Donc ça donne un peu l'idée de l'incompréhension qu'il y a entre nos communautés malheureusement et qui règne encore aujourd'hui. Alors il s'agit en fait d'un site tout à fait invisible pour qui n'y porte pas attention. Quelques pierres alignées sur le sol qui pointent vers le nord. Les Atikamekw étaient considérés comme les gardiens du nord dans leurs alliances avec les autres peuples. Les petites pierres sur le sol accumulent de l'eau qui sort d'un petit ruisseau. Mais là, je vous entends me dire « de l'eau dans un feu ». Eh bien oui, justement, parce que de l'eau sort un peu de gaz naturel. Alors littéralement, on met le feu sur l'eau et on allume un calumet à partir de l'eau. Et on se passe le calumet entre amis comme ça. Donc, il y a un chaman ou un medicine man qui fait quelques prières que je n'ai pas compris puisqu'on m'a appris le français et l'anglais, mais on m'a jamais appris la langue de mes amis Atikamekw. Quelques prières, on allume le calumet, on fume quelques puffs et on en passe à qui veut bien en fumer. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que tout ça se fait dans une simplicité incroyable. Les gens continuent de jaser, on fait des blagues, bon, on baisse le ton un peu par respect quand le chaman parle, mais c'est une cérémonie d'une simplicité incroyable.
Mais alors, comment tu expliques cette simplicité, cette absence, tu disais, de faste un peu?
Ben, c'est justement là où mes études m'ont servi. Parce que pour les Autochtones, ce qu'on appelle, nous, la religion, eh ben, est intégré au quotidien. Pour eux, tout est spirituel. Hein? Donc, il n'y a pas de séparation entre le profane et le sacré. Il n'y a pas de séparation. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'institution religieuse séparée du reste de la communauté. De la même manière qu'il n'y a pas d'institution comme l'État, par exemple, dans ces sociétés-là. Donc, le pouvoir politique n'est pas séparé de la société. Le pouvoir religieux n'est pas séparé de la société non plus. Donc, d'ailleurs, anciennement, le chaman vivait en retrait du village pour être plus proche des animaux, pour avoir plus de tranquillité, pour méditer, etc., etc., pour faire ses rituels. Mais il faisait même pas ce travail-là à temps plein, hein. Comme les autres, il chassait, il pêchait, il faisait la guerre, il faisait l'amour. Et il côtoyait tout le monde comme un individu bien ordinaire. Donc, l'autorité spirituelle est pas structurée de manière hiérarchique chez nos amis autochtones en général et Atikamekw en particulier. D'ailleurs, cette religion-là ne commande rien. Hein? Elle dit, en gros, « sois libre ». Elle ne commande pas, il n'y a pas de prescription très très formelle comme on en retrouve dans les religions monothéistes. Donc les autochtones gardent leur autonomie face à tout l'aspect cosmique, spirituel, tout ça, et c'est eux-mêmes qui interprètent leur propre destinée à travers les signes, hein, qui nous sont pour nous un peu étrangers, mais qui sont quand même pour eux porteurs de beaucoup de sens. Et bon, tout ça dans une émission sur le travail, bien entendu, c'est parce que ça s'inscrit dans un contexte particulier. C'est un contexte revendicatif et cette cérémonie-là, pour les Atikamekw, elle a un aspect politique très, très important. Ils ont fait, nos amis Atikamekw, une déclaration de souveraineté en 2014, on s'en souviendra, et ils sont depuis dans une logique d'affirmation. Donc, les traditions, par exemple, sont très importantes pour eux et pour elles, comme celle du feu sacré, par exemple. Et leur rapport au territoire est également très important. C'est pas pour rien qu'ils ont passé l'été à voyager à l'intérieur du pays. C'est une manière pour eux de se réapproprier le territoire. D'ailleurs, vous le savez peut-être, mais Atikamekw, en leur propre langue, ça se dit « Neiro Wiziu ». Pardon, je le massacre fort probablement, désolé. Ça signifie, c'est là le plus important, être autonome sur son territoire. Donc le nom même Atikamekw fait référence au territoire. Le territoire, bien entendu, pour des peuples nomades, on conçoit très bien que ça signifie autre chose que pour nous, qui sommes nés dans la sacro-sainte propriété privée. Je vous lis un petit extrait de la déclaration, si vous permettez. « Nitaskinan » qui signifie le pays en Atikamekw, est notre patrimoine et notre héritage des plus sacrés. Notre Créateur a voulu que nous puissions vivre en harmonie avec Nikawinan, notre terre-mère, en nous donnant le droit de l'occuper et le devoir de la protéger. Donc, comme vous le savez sans doute, les Autochtones ont un rapport à la forêt particulièrement, qui est particulier. Pour eux, la forêt et fait partie d'eux-mêmes. Hein? Je pourrais même reprendre la formule de Marx qui disait « La nature est le corps non organique de l'homme », ajoutons de la femme, puisqu'on est au 21e siècle. Donc, pour les Autochtones, il y a un continuum entre eux, les animaux, les âmes invisibles et la forêt, donc le monde végétal. Les mythes Atikamekw et autres parlent d'ailleurs d'hommes élan, de femmes serres, d'hommes martres, d'hommes hiboux, etc., etc. Pour eux, les esprits, donc, traversent tout le monde. Les animaux, la nature, les anciens comme les jeunes. Donc, pour eux, le territoire, il fait partie du corps du peuple. Et c'est pour cette raison qu'ils veulent une instance nationale qui leur permettra d'exercer cette indépendance-là sur leur territoire. Je reprends, si vous permettez encore une fois, la déclaration de souveraineté. La protection de Nitaskinan, la défense de son mode de vie et de ses aspirations animeront en tout temps les actions d'Atikamekw et de ses institutions actuelles et futures. Nous ne sommes pas Canadiens, nous ne sommes pas Québécois, nous sommes Atikamekw. Prenez acte. Les Atikamekw sont réputés pour être un peuple des plus combatifs. En 2013, ils ont bloqué pendant plusieurs jours tout le pays pour manifester contre les compagnies forestières qui venaient piller leurs richesses. Cet été, ils ont mis en demeure la compagnie forestière Remadec pour le non-respect de leurs droits. Ils sont donc réellement en processus de reconquête de leur territoire. Et bien entendu, dans un processus comme celui-là, il s'agit pour eux, comme s'il s'agit de peuples dépossédés littéralement, de reconquérir une partie d'eux-mêmes finalement, hein, une partie qui leur a été arrachée, comme celle de leurs frères et de leurs sœurs Cree, Mohawk, Micmac, etc. C'est donc, chers amis, une histoire à suivre et j'aurai sans aucun doute l'occasion de vous en reparler dans le cadre de cette émission.
Alors merci beaucoup Marc-André. En tout début d'émission, je me ressaisissais un peu de du studio, donc j'ai eu un petit problème technique. Tu voulais nous diffuser un extrait de la cérémonie de l'année passée, il me semble.
Oui.
On va l'écouter, puis j'aurai une petite question pour toi après.
Super.
Il s'agit de chants traditionnels, hein, c'est bien ça, dont tu nous parlais.
Oui, exactement.
En tout cas, merci beaucoup pour le récit que tu nous as fait de la cérémonie. Très belle, ça avait l'air très émouvant.
Ben, je conseille à tout le monde de voyager, voir nos amis des communautés autochtones au Québec. Hein. On a vraiment l'impression d'être à des centaines de kilomètres de chez nous. Les Atikameks parlent beaucoup l'Atikamek. Hein. C'est un phénomène presque unique au Canada, d'ailleurs. Et ils rient, ces gens-là ont une facilité à rire. Alors, donc, on est vraiment au sein, on se retrouve bercé dans une autre culture en parcourant quelques kilomètres.
Je vais laisser de côté ma question parce qu'on est, toujours poursuivi par le temps. On va se quitter avec une petite pause musicale. Est-ce que tu peux nous parler du choix musical que tu nous as proposé pour aujourd'hui?
En fait, c'est simplement pour donner l'envie aux gens de voyager un peu à travers les pays autochtones. C'est un chanteur Atikamek qui s'appelle Arthur Petitcoué et qui chante Mikisiu.
On écoute et on se retrouve après.
Yeah.
Vous êtes toujours en train d'écouter Action en direct. Nous sommes de retour avec notre émission de rentrée, mais notre chroniqueur Éric, lui, n'est pas encore rentré et il est en Europe, mais nous a enregistré un pétage de coche sur Éric Duhem.
Alors, salut à tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé des belles vacances cet été. Aujourd'hui, c'est le fun. On a un beau concept d'émission, retour de vacances. Hein? Malheureusement, je peux pas être en studio aujourd'hui pour faire mon pétage de coche comme d'habitude. Fait que je décide de le pré-enregistrer pour que vous ayez accès à ça. Cet été, je suis allé faire le tour de la Gaspésie. Qu'est-ce qu'on fait quand on s'en va en Gaspésie à partir de Montréal? Ben, on passe sur la rive sud de Québec. Puis j'ai décidé de syntoniser hein, un peu de terroir local de Québec, c'est-à-dire nos bonnes vieilles radios poubelles, sur la route, début août. Et là, qu'est-ce qu'on parlait? Là, c'était notre cher ami Éric Duhem du FM 93 qui nous parlait de ça. Hein? On se fait envahir par les immigrants et les immigrantes. Attention tout le monde, ça va pas bien sur la planète. Ça va pas bien. Tout est de la faute à Justin Trudeau, là, mais on se fait envahir, puis il se passe rien. Puis là, qu'est-ce qu'il fait? On le sait pas. On se fait envahir. C'est ça qui est important de retenir de ce que j'ai entendu cette fois-là sur cette émission d'Éric Duhem. Fait que j'ai essayé aujourd'hui de vous parler de deux concepts. Celui du mercenaire, hein? Qu'on connaît surtout dans le monde militaire comme étant des gens qui vont se battre pour d'autres armées que celles de leur pays où ils ont la citoyenneté. Donc, c'est souvent utilisé, en fait, militairement depuis des millénaires et ça continue de l'être encore aujourd'hui. Et celui de bouc émissaire, hein, celui de... un petit truc qu'on utilise pour nous dévier d'un vrai problème, en fait. T'sais, on a un vrai problème. Puis là, on va pointer complètement à côté quelque chose qui n'a pas rapport avec ce problème-là pour dire c'est ça le vrai problème, puis ça va pas bien. Donc, on dévie les gens du vrai problème pour les envoyer sur le côté à une affaire qui n'a aucun rapport. C'est ça un bouc émissaire. Donc, on s'en va en Gaspésie, hein, là-bas. D'ailleurs, on salue les gens de la Gaspésie qui nous écoutent. C'était vraiment apprécié. Donc, on s'en va là-bas. Belle région, super le fun. On écoute Radio X. Pas Radio X, en fait, le FM 93, pardon. C'est la même affaire de toute façon, fait que c'est pas bien grave, là. Donc, notre ami Éric Duhem, pendant l'émission, là, il est hors de lui. Hein, ça va pas bien, on se fait envahir, tout ça. Il nous sort tous les clichés possibles et inimaginables sur l'immigration. J'en profite pour faire une parenthèse. T'sais. Autant je déteste les radios poubelles, puis habituellement, ils m'ont habitué à beaucoup de démagogie, puis tout ça. Autant, je les avais rarement vus aller aussi loin dans le racisme. C'est pas d'habitude dans leur genre, surtout qu'ils se disent libertariens, hein, donc ultra-libéraux, qui veulent tout privatiser, puis tout ça, puis ouvrir les frontières. Généralement, les libertariens, c'est ce qu'ils veulent. Fait que j'ai été assez surpris à ce niveau-là que notre ami Duhem commence à nous sortir tous les clichés de l'immigration. Hein. Des gens qui viennent parce que ils ont des casiers judiciaires, pis c'est des criminels, donc ils sauvent de leur pays, puis nous, on les accueille à bras ouverts. Hein, c'est des fainéants qui font rien, qui viennent ici pour se pogner le beigne puis avoir du BS. Bref, tout ce qui est possible de dire là, pour faire mal passer les immigrants et immigrantes, Éric Duhem nous l'a sorti cette journée-là en version soft. Parce qu'après ça, ce qui est le fun, c'est qu'il fait des lignes ouvertes. Fait que le monde peut s'exprimer librement là-dessus. Hein? Fait que Éric Duhem, on pourrait penser que c'est un taré. Et avec, on aurait quand même plusieurs raisons de croire ça. Mais en fait, c'est pas un taré, c'est un mercenaire. C'est quelqu'un qui parle dans l'intérêt de la personne qui le paye. Puis il va toujours faire ça. C'est exactement ça, son rôle social. Donc, on pourrait penser que c'est un taré, mais il sait très bien ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il va toujours y aller un peu mollement, pas trop raide, mais il laisse les gens appeler pour dire « aller 10 fois plus loin », puis là, il peut après ça dire « hey, vous allez loin un peu, monsieur, faudrait pas aller trop loin ». Fait comme ça, il y a le beau jeu. L'opinion la plus radicale, la plus redneck va passer en émission. Puis lui, il passe pour le gars qui vient modérer un peu tout ça, tu sais, comme un modéré, finalement, alors que c'est quelqu'un qui a ses intérêts, puis qui défend des intérêts. Donc, tout le long de l'émission, on va avoir Éric Duhem là, qui va nous dire une chose et son contraire pour faire valoir son point, puis dépendamment à qui parle, que c'est donc même pas correct parce qu'il y a des gens, eux autres, qui passent le processus légal puis que ça marche pas, alors qu'il y a des voyous qui violent nos lois en traversant la frontière illégalement, eux autres sont accueillis à bras ouverts par Justin Trudeau puis le stade olympique puis ah ouais donc. Mais là, il nous explique tout ça. T'sais, ça, là, c'est parce que Donald Trump, il a décidé d'expulser les gens qui avaient des casiers judiciaires. Fait que là, il nous explique. Donald Trump, là, t'sais, des fois, entre ce qu'il dit puis ce qu'il fait, t'sais, c'est pas toujours exactement ça. Fait qu'il comprend pas pourquoi les gens se sauvent tout de suite alors que c'est pas encore une loi, que c'était juste une déclaration que Donald Trump a dit. Puis là, après ça, il vient nous expliquer que, dans le fond... Donald Trump, il veut juste les chasser parce que c'est des voyous. Mais il fait pas tout le temps ce qu'il fait puis ce qu'il dit. Mais en tout cas, il dit pas exactement au même moment. Il y a comme un 20 minutes, fait qu'on a le temps d'oublier qu'il a dit quelque chose puis son contraire après 20 minutes. Ce qui est quand même assez intéressant. Puis après ça, ben notre Éric Duhaime part sur des infopubs. Hein, il nous dit pas. On le sait pas. À un moment donné, on écoute l'émission, puis il part, puis il commence à nous raconter qu'il est allé manger dans tel restaurant. C'était vraiment bon, il a bien apprécié de discuter avec le patron, blablabla, puis il part sur 5 minutes de discussion sur ce restaurant-là, hein, ce qui est évidemment un infopub, ce qui est assez fréquent, justement, dans les radios poubelles. Mais sans le dire, c'est ça qui est drôle. Puis après ça, c'est ça qu'on veut dire par quelqu'un qui est un mercenaire, c'est quelqu'un qui va défendre ce qui est payé pour dire, puis c'est tout. Ce gars-là part en infopub après avoir parti ce sujet-là. Sur un sujet complètement autre. Qu'est-ce qui nous dit que toute l'émission n'est pas financée, par exemple, par la Meute, puis que c'est pas une infopub cachée? On le sait-tu? On le sait pas, parce qu'ils nous le disent pas avant que c'est une infopub, puis qu'ils ont été payés pour dire ça. Mais, en tout cas, comme le dit si bien Eric, hein, mieux vaut de la mauvaise information que pas d'information pantoute. Hein? Fait que à ce niveau-là, les gens de Québec peuvent être bien servis par leur radio adorée. Fait que là, on va revenir aux questions du mercenaire puis du bouc émissaire. Les radios poubelles, Éric Duhaime, Richard Martineau, Mario Dumont, Dominique Moret et compagnie. Eux autres, ils défendent quels intérêts? C'est quoi leur but dans la vie à ces gens-là? Ça, c'est une bonne question. En fait, souvent, quand on veut vérifier ça, on n'a qu'à aller voir c'est qui finance tout ça, hein? Ces gens-là sont payés par Pierre-Carl Péladeau ou d'autres médias qui ont leurs propres intérêts. Est-ce qu'on peut nier le fait que Pierre-Carl Péladeau, avec 15 lock-out, je pense, aux dernières nouvelles, n'a pas ses intérêts, puis que ses intérêts ne passent pas dans ses propres publications? Est-ce qu'on peut penser deux secondes que ça, sans être dans la théorie du complot, c'est quelque chose de plausible, tu sais? Sinon, pourquoi s'acheter des médias dans la vie? Si c'est pas pour faire valoir son message dans l'opinion publique. Fait que, tu sais, ça pose la question. Quels intérêts ils défendent, ces gens-là? Ben, ils défendent les intérêts des gens qui les payent pour défendre des intérêts. C'est tout. Ils servent à rien d'autre dans la société. C'est rien d'autre que des mercenaires. Qui, justement, leur patron ayant des intérêts, vise à attaquer constamment la classe ouvrière. Et quand je dis constamment, c'est constamment que ce soit de l'antisyndicalisme primaire, que ce soit du racisme, hein, parce qu'on sait que plus qu'on va monter des clans contre d'autres clans, plus qu'après ça, on peut diriger sans problème, parce que tout le monde est divisé, puis se chie dessus au bas de l'échelle, pendant qu'en haut, ben nous autres, on a les mains déliées, puis on fait ce qu'on veut. Fait que, tu sais, c'est ça un peu la question. Tu sais, Éric Duhaime, par exemple, jamais on va l'entendre parler des paradis fiscaux. Jamais on va l'entendre dire à quel point il y a des milliards qui sont... et qui s'évadent de l'impôt à chaque année par des grosses entreprises, par des grands patrons. Mais on va l'entendre chialer sur les gens sur l'aide sociale, par contre. Là, à l'entendre, c'est le pire fléau de la société. Lui, il couperait tout. Tout est de leur faute. Si ça va mal en société, c'est de la faute. Évidemment, aux gens sur l'aide sociale, avec leurs 600$ par mois, c'est évidemment la faute aux migrants et aux migrantes. Qui sauvent pour avoir un avenir meilleur. Fait que, tu sais, c'est de leur faute à eux. Ils viennent profiter de nous à côté. Pendant ce temps-là, eux autres, ceux qui sont les vrais problèmes... Ah, on n'entend pas parler. Eux autres, c'est pas grave qu'il y ait de l'évasion fiscale de milliards de dollars par année. Mieux vaut chialer contre quelqu'un qui est sur l'aide sociale qui fait une job à temps partiel sur le site. Ça, c'est bien grave. Fait que c'est ça, un peu de pensée... dans nos médias, puis quand on lit des affaires, c'est important de garder en tête toujours quels intérêts défendent ces personnes-là. Qui les paye? quels sont les intérêts des gens qui les payent, puis quels sont les intérêts des gens qui défendent ces points-là. À ce niveau-là, je pourrais vous inviter fortement à aller faire un petit tour sur le site sortonslespoubelles.com, hein, qui est la coalition contre les radios poubelles, qui fait une bonne job depuis plusieurs années, qui liste notamment toutes les gens qui financent ces radios-là, puis qui achètent de la pub. Fait que ça, je vous conseille d'aller faire un petit tour là-dessus, vous allez voir un peu qui finance ces radios poubelles-là. Sinon, hein, parce que nous aussi, on est capable de sortir des trucs comme un sac de Pandore, puis trouver des boucs émissaires. En voilà un. Il y a une rumeur persistante depuis de nombreuses années sur laquelle Éric Duhem a déjà travaillé pour une filiale, la CIA, en Afghanistan. Et ça, tout ça dans le but de vendre la démocratie en Afghanistan. Fait que ça mange quoi en hiver, ça, vendre la démocratie en Afghanistan? Ça sonne pas mal comme un mercenaire qui s'en va défendre les intérêts américains en Afghanistan en faisant de la propagande, hein? Bref, c'est pour ça qu'on l'aime. Fait que c'est pas mal ça. Je voudrais juste clore tout ça en vous rappelant que Radio X avait essayé d'ouvrir une radio à Montréal en grande pompe avec Éric Duhem comme animateur vedette. Donc, ils avaient racheté à ce moment-là une vieille station de radio jazz. Et ce qui était assez intéressant, et là, c'est là que je suis fier de vivre à Montréal, c'est le fun. Il y avait plus de codes d'écoute la nuit, quand il n'y avait pas la programmation de Radio X et qu'on revenait sur le jazz, que le jour avec la programmation de Radio X. Fait qu'on lâche pas Montréalais et Montréalaises, on continue le bon travail. Puis je vous invite fortement à vous rappeler de ces radios-là ont leurs propres intérêts, ces radios-là servent des intérêts. Ces intérêts-là, c'est pas celle de la classe ouvrière. À ce moment-là, voyons-les comme elles sont réellement, c'est-à-dire des ennemis de notre classe sociale, des ennemis des travailleurs et travailleuses qui ne visent rien d'autre qu'à promouvoir les intérêts des plus riches. Voilà.
Nous remercions Éric de nous avoir parlé de la radio qu'il a écoutée pendant son road trip au Québec. On va enchaîner avec une petite pause musicale. Adam, veux-tu nous introduire la prochaine chanson?
Oui, avec plaisir. Alors, la prochaine chanson, c'en est un groupe antiraciste très populaire des années 90 qui s'appelle Rage Against the Machine, la chanson People of the Sun. Phew.
Trying to steal your name, but now you found a gun. Your head straight, this is for the people of the sun. It's coming back around.
Vous écoutez toujours Action en direct. Éric nous a fait un pétage de coche en nous parlant de son road trip dans l'est du Québec. Je suis moi aussi allée dans le bas du fleuve et en Gaspésie cet été et je vais vous en parler un peu. Cet été, il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont passées du côté de la lutte contre l'exploitation des hydrocarbures. En juillet, il y a eu de la machinerie de la compagnie Squatex qui a été incendiée par des militants militantes dans le bas du fleuve à Saint-Jean-d'Arc. Au mois d'août, j'étais sur la route entre Murdochville et Gaspé et je suis passée au camp de la rivière. Le camp a été érigé le 8 août dernier en support au blocage qu'il y avait contre Junex. On pensait avoir de la difficulté à trouver le camp parce que c'est un peu perdu, cette route-là. Mais ça a été très visible avec des grosses bannières qui disaient « Stoppons Junex, non à la fracturation » et une petite bannière humoristique « Nous embauchons ». Le camp était bien actif et pendant que j'étais, plusieurs personnes passaient laisser de la nourriture ou du matériel en support au camp. Il était aussi possible de camper sur place. Le camp est situé à quelques kilomètres en bas du site d'exploitation du Junex, où il y a eu un blocage par des militaires militantes. Il n'était pas possible d'accéder au site parce qu'il y avait un barrage policier. La Sûreté du Québec identifiait les gens et bloquait le passage. Et quelques jours après mon arrivée en Gaspésie, le blocage du haut a été démantelé par la Sûreté du Québec et un Anishinaabe algonquin, Frédéric Stony Point, a été arrêté. Il fait face à des accusations criminelles. Mais malgré tout, même s'il n'y a plus de blocage, le camp de la rivière continue d'exister. Il y a de la mobilisation encore partout au Québec contre les hydrocarbures. Il y a eu le déploiement d'une bannière contre l'exploitation du pétrole sur le bureau du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles à Montréal en support au mouvement de Junexit. Il y a eu une occupation des bureaux de Junex à Québec. Il y a eu des manifestations à Montréal et à Gaspé et le blocage de la voie ferrée en fin de semaine dernière à Pointe-Saint-Charles où il y a une route de train de circulation du pétrole. Les groupes Environnement Vert Plus et Tache d'huile luttent depuis longtemps contre l'exploitation des hydrocarbures dans l'est du Québec. Nous avons d'ailleurs en entrevue aujourd'hui, en direct du camp de la rivière, Pascal, qui est un militant d'Environnement Vert Plus. Salut Pascal, comment ça va?
Ça va bien, merci.
Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de comment ça se passe en ce moment au camp de la rivière?
Ça se passe bien. Là, on est la fin de semaine, fait que comme d'habitude, il y a plus de gens qui affluent aujourd'hui que dans le restant de la semaine. Les dons d'aliments continuent à rentrer. On a le problème inverse de manquer de bouffe, c'est-à-dire qu'on en a trop puis il faut la gérer. Puis la pression policière a décru beaucoup. On avait des patrouilles qui passaient ici trois fois par jour après que la barricade soit tombée. Puis là, ils nous laissent plus tranquilles, puis il y a moins d'harcèlement. Là.
Donc là, vous êtes plus tranquille, mais vous continuez de rester là. Quelles sont les revendications des gens du camp de la rivière?
Bien, on porte d'abord les revendications historiques du mouvement contre les hydrocarbures en Gaspésie, c'est-à-dire l'arrêt des travaux et une consultation publique valide qui passerait par un BAP normalement. Puis on demande aussi, là il y a des choses qui se sont ajoutées parce que ça bouge. Fait que la MRC Côte de Gaspé a pris position en faveur du projet Bourque, qui est un projet de forage pour du gaz naturel à une soixantaine de kilomètres de Murdochville. Puis on demande que la MRC Côte de Gaspé retire son appui au projet Bourque le temps qu'ils s'informent sur le projet puis qu'ils comprennent c'est quoi les enjeux autour des hydrocarbures dans la région là.
Donc, malgré la pression que vous faites depuis longtemps, la MRC a appuyé un nouveau projet de gaz naturel. Qu'est-ce qui se passe là en ce moment avec les puits d'exploitation de Junex ou les autres puits en Gaspésie?
Il y a trois sites principaux de forage en Gaspésie. Bourque, c'est celui dont on parlait. Là, ils sont rendus à deux forages horizontaux. Puis cet été, ils ont fait le nettoyage à l'acide de ces puits-là. Ils ont un permis de complétion qui leur permet de faire leur test de fracturation. Nous, on est en bas, comme tu disais au début, en bas du site Galt, donc à 20 km de Gaspé, le long de la 198. Ce site-là sont rendus à Junex a 6 puits de forêt, 5 puits de forêt, puis ils devaient débuter leur sixième puits en septembre. Et finalement, les travaux ont été reportés. Puis Haldimand, près de Gaspé, sont rendus au... Ils ont trois puits de fête, dont un horizontal. Et ils ont fait les opérations de nettoyage à l'acide là-bas aussi. Là.
Donc, tu nous parles depuis horizontaux. Quels sont les dangers environnementaux de l'exploitation des hydrocarbures?
Il y en a plusieurs. La fracturation, c'est certain que c'est celui qui est le plus gros puis le plus évident. Puis les entreprises, comme c'est des petits gisements puis que la pression est faible, les chances sont qu'ils vont avoir besoin de recourir à la fracturation hydraulique pour rentabiliser leur gisement. Puis ça, ça veut dire l'injection de produits hyper toxiques dans le sol. Après ça, la contamination des nappes phréatiques, éventuellement les régions où il y a eu beaucoup de puits fracturés, on parle de tremblements de terre. En Arkansas, en 2011, ils ont interdit la fracturation hydraulique, qui était rendue à 1220 tremblements de terre en quelques années là, à cause de la fracturation. En Alberta, il y a beaucoup de tremblements de terre aussi. En fait, dans toutes les régions, il y a eu fracture. Mais c'est pas la fracturation, c'est pas le seul risque. Après ça, il y a les puits qui fuient. Tous les puits d'hydrocarbures fermés finissent par fuir parce que c'est pas compliqué, en fait. Un puits d'hydrocarbures, c'est un coffrage d'acier et de béton. Et on voit les viaducs, ben au bout de 50 ans, ça tombe. Ben, un puits, c'est la même chose. Au bout de 30 ans, c'est 60 % des puits qui fuient d'une manière ou d'une autre. Puis plus le réservoir auquel le puits touche est important, plus les fuites risquent d'être importantes à terme aussi. Puis ben un puits qui fuit avec un écoulement à partir de la tête de puits, ben ça finit, si ça finit pas dans les eaux de surface, ça finit dans les eaux de la nappe phréatique. Puis un coup que c'est rendu dans la nappe phréatique, mais il n'y a plus grand-chose à faire. Là. C'est impossible à décontaminer. On a déjà des exemples au Québec. Puis sinon, mais il y a tous les risques qui viennent avec avec les opérations normales, donc camionnage, destruction des routes, et j'en passe là. Travailleurs fly-in, fly-out avec les enjeux sociaux qui viennent avec ça au niveau du changement de climat social, de la drogue, de la prostitution. Ces travailleurs-là sont majoritairement, sinon absolument des hommes, puis ça crée une pression à ce niveau-là, là, au niveau social.
Et je me demandais, quelles sont les prochaines étapes de la lutte contre les hydrocarbures à venir en Gaspésie ou dans l'Est du Québec?
Ben nous, on continue le campement. Les prochaines étapes, ça va être de continuer à aller chercher la population locale, de l'amener à d'amener un support plus massif de la population locale. Il est déjà là, les gens, on a énormément de gens qui nous disent qui veulent qu'on continue, mais il y a une marge entre ça puis avoir un mouvement social puis des centaines voire des milliers de personnes de la Gaspésie dans les rues là. Donc poursuivre la mobilisation de ce côté-là, empêcher les élus de faire des conneries pendant ce temps-là parce que ça il y a rien de gagné là, ils sont accrochés après les quelques jobs qu'il pourrait y avoir dans cette industrie-là. Puis sinon, mais c'est de faire rayonner cette lutte-là ailleurs au Québec. On voit qu'il y a une barrière médiatique entre la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, puis le reste du Québec, là, Montréal, Québec. Ici, on passe dans les médias plusieurs fois par semaine avec l'opération qu'on mène. Puis, dans le coin de Montréal, c'est pratiquement absent des masses médias. Là. Donc, c'est de trouver une façon de lier les luttes entre les métropoles, les grands centres, puis la région, pour que la lutte émerge dans les médias de masse dans la métropole. Je pense que c'est ça le point qui achoppe en ce moment, puis qui ferait qu'on avancerait dans notre lutte, puis qu'on aurait des chances de gagner. Là.
Ben nous, on va continuer à Montréal de faire le pont avec vous en Gaspésie et d'essayer d'apporter notre support le plus possible. Merci beaucoup, Pascal.
Merci, Émilie, de continuer à faire ça.
Ben lâchez pas.
Merci.
On se repart bientôt.
Oui.
On va enchaîner avec la chronique de Adam.
Oui, Adam, il me semble que tu voulais nous parler des grèves dans le Bas-Saint-Laurent. Alors toi, tu es aussi parti dans le bas du fleuve cet été et tu es tombé sur plusieurs piquets de grève. Hein.
Oui, exact. Au Bas-Saint-Laurent, on a arrêté à Rivière-du-Loup en descendant pour débarquer dans un concessionnaire GM Buick. On vend des gros pick-up. Puis donc c'est ça. Le dealer en tant que tel, il y a une grève, ils sont syndiqués avec la CSD. Ça fait un an et deux, probablement trois mois qu'ils sont en grève depuis maintenant. C'est 8 travailleurs aux pièces, au garage. En fait, tous les hommes de service là, dans le garage là, qui sont en grève. Puis eux, ils font face à un boss un peu cow-boy. Là, le père du boss, en fait, M. Bérubé, aurait rentré en char dans un gréviste. Là, ça, c'est eux-mêmes qui nous ont conté ça. Là, donc, ça brasse assez. Donc, le litige, eux, ils veulent faire passer le fonds de pension de 10 à 5 mais c'est pas que ça. C'est vraiment pas que ça. Il l'a dit, le boss, ils veulent casser le syndicat. Donc, eux, ils se battent, ils continuent à se battre, ils sont 8. Ils ont parti à 12. Il y a 4 travailleurs qui ont lâché. Mais là, les 8, ils se sont fait dire par la CSD, vous pouvez finir vos jours sur le piquet de grève, vous allez avoir vos pensions, on va vous payer jusqu'à temps que ça se règle. Et surtout, faites rien. Laissez le syndicat, hein, laissez la CSD s'occuper du conflit. On va négocier. Mais nous, quand on est allé rencontrer ces travailleurs-là là, sur leur picket line, là, sur leur picket de grève, puis qu'ils se sont fait dire de rien faire, là, c'est pas tant motivant. Pis... Mais les gars sont là, puis sont fiers pareil, puis ils se battent pour ça. Mais tu sais, quand ton propre syndicat t'a dit un peu de rien faire, tu te demandes un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire, tout ça. Donc nous, on est débarqué les WW sur le picket line, comme on le fait souvent. Puis on leur a donné une couple d'idées là, d'actions qui pourraient être entreprises. Donc maintenant, c'est le temps de prendre papier et crayon. J'ai un numéro de téléphone pour vous. Donc c'est le 1-418-862. 63-24. 1-418-862-63-24. Alors, ce numéro-là, c'est pour appeler directement le concessionnaire à Rivière-du-Loup aux pièces. Puis là, vous pouvez commander des pièces, faire livrer ça chez vous. Parce que eux, ils engagent en fait un briseur de grève qui est le fils du patron, hein, crosseur de père en fils. Donc, ce fils de patron-là travaille pour les pièces. Fait que vous pouvez appeler 1-418-862-6324. Commandez des pièces. Dites que c'est pas les bonnes. Bourrez les lignes. Vous pouvez envoyer des fax. Après, on appelle à l'action. Nous, on dira jamais à un travailleur sur un picket line de ne rien faire. Moi, je pense qu'une grève, c'est un moment opportun pour développer le rapport de force, pour être créatif, puis développer d'autres nouvelles solidarités. Donc, ça, c'était le cas du GMC Chevrolet. Ensuite, on est allé à Saint-Valérien. Saint-Valérien, qui est tout près de Rivière-du-Loup, près de 30 km, chez le plus gros employeur du village. Saint-Valérien, c'est 900, un petit peu plus, habitants, habitantes. Puis il y a une shop qui s'appelle AMT Moulage, qui font des pièces de plastique. Puis là, ça, c'est le plus gros employeur de la région, fait que ça l'emploie 125 à 130 personnes qui sont en grève depuis le 11 mai. Là-bas, ouais, c'est depuis le 11 mai. Puis là, encore là, les travailleurs et travailleuses qu'on a rencontrés sur le picket line se sont fait dire aussi de ne rien faire, que Unifor, leur syndicat, allait s'occuper de tout. Et fait que là, eux autres, ils réussissent un peu à calmer le jeu. Mais là, quand on a débarqué là, les UWW sur leur picket line, ils étaient bien contents de nous rencontrer puis de bâtir un peu une nouvelle solidarité avec une autre forme de syndicalisme. Fait que nous, encore là, on a donné quelques idées. On a appris sur leur conflit. Exactement. Donc, nous, ça nous a fait bien plaisir là, d'aller rencontrer ces grévistes-là. Et puis, fait que c'est ça. Deux conflits à suivre dans le Bas-Saint-Laurent. AMT, Moulage AMT. Là aussi, on appelle à l'action. Hein. Toute action est bonne. Et GMC Chevrolet à Rivière-du-Loup, je rappelle le numéro de téléphone pour bloquer les lignes, 1-418-862-6324. Vous demandez les pièces. Merci.
Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour se tenir au courant de ces luttes?
Ben, premièrement, ça va être en écoutant Action en direct dans 2 semaines. Il va probablement y avoir un suivi. Moi, je pourrais appeler un contact là-bas ou deux, puis on pourrait peut-être avoir une entrevue téléphonique avec lui.
T'avais une question peut-être, Marc-André?
Peut-être pas.
Ah, j'ai cru. Non, mais c'est super intéressant de faire ça, de continuer à le faire, de créer des liens et effectivement d'apporter aussi d'autres lignes de pensée, le syndicalisme et la solidarité. Ah, finalement, j'ai une question.
Ouais, mais c'est plus un commentaire. Hein. Je me souviens, j'écoutais Adam parler, puis ça me rappelait que, tu sais, dans nos journaux, un peu la même chose avec la chronique de notre amie Émilie, tu sais, on a des spécialistes dans nos journaux du Canadien, du tennis de table, de décoration maison, du jardinage, puis il n'y a pas un damné journaliste qui est dédié strictement aux questions syndicales. Ces conflits-là, bon, au niveau environnemental, disons que la question est un petit peu plus à la mode. T'sais. On a Alexandre Chills qui fait un travail incroyable au Devoir, entre autres, ainsi que d'autres. Mais pour la question syndicale, c'est pas couvert du tout. Pourtant, il y a des centaines de syndicats juste dans la région de Montréal. Il y en a encore plus au niveau national. Puis il n'y a pas un spécialiste de la question qui est foutu de nous expliquer ces conflits-là.
Absolument. T'sais. Même, tu m'emmènes sur le plancher des médias, même eux à Rivière-du-Loup, quand ils essayent de faire passer un message médiatique dans le journal local, les grévistes, mais le journal refuse parce que le boss, le propriétaire du concessionnaire, achète beaucoup de publicité dans ce média-là. Donc, eux autres, leur message n'est jamais passé. Même chose à l'aréna, même chose dans ces petits villages-là, là, quand t'emmènes large, ben c'est ça qui arrive. Puis même à Saint-Valérien, le maire est sorti publiquement pour dire que les grévistes de moulage AMT allaient faire fermer le village. Tu sais, je veux dire, c'est pas de la démagogie, puis... Bref, je sais pas c'est quoi, mais ça se passe dans ces villages-là, puis là, ça finit que tout le monde connaît quelqu'un qui travaille là, ou c'est dans sa famille, puis bref, ça met du monde de côté, puis c'est un gros litige là, dans un petit village comme ça. Là.
Mais en tout cas, pour toutes les personnes du Bassin-Laurent et de la Gaspésie, j'ai entendu dire qu'ils embauchaient au campement Junex.
Ouais, ouais. Allez, portez vos CV.
Ben, j'avais envie de vous proposer une petite écoute de musique en solidarité avec tous les grévistes de partout dans le monde. En fait, j'ai fait un petit tour en France, moi, à la fin de l'été, pour aller rendre visite à ma famille. Et en fait, en France, recommence une mobilisation contre ce qu'on a appelé l'année passée la loi travail, qui a donné lieu à un gros mouvement social, qui a réussi en partie à bloquer cette loi-là. Donc, c'est reparti avec notre nouveau président Emmanuel Macron. Et à ce moment-là, il y a un morceau que j'aime beaucoup d'un groupe qui s'appelle Ashton qui est sorti. Le morceau s'appelle Bousille-le. Puis c'est un peu un espèce de mode d'emploi que faire face à tout ce qui nous barre la route, nous autres, la classe ouvrière. On écoute ça, puis on rediscute de l'émission après.
Bordel de flûte. Ton bahut, c'est de la merde, bousille-le. Ton patron te file la gerbe, bousille-le. C'est l'État qui t'enchaîne, bousille-le. Tous ces chiens et ces chiennes, ouais, bousille-les. Et quoi ? C'est parce qu'on est des gentils que les vidéos de petits chats nous ont abrutis. Parce qu'on a rien dans le sac, on va conjuguer de grands verbes. Parce qu'on veut bien faire des vagues, mais pas noyer tous ces manges-merdes. Trouver des terrains d'entente, les terrains c'est les leurs. Ils sont sourds, sans branle, s'essuie les mains sur tes valeurs. Pourquoi jouer les diplomates ? On prendra toujours plus tant qu'on répondra au coup de latte. Entendant notre cul, parfois le pardon, c'est pas bon. Est-ce un tort de forcer ? Ok, t'as plein de droits, mais t'sais, le droit ça se plie. Parce que le patron, c'est le patron dans le rapport de forcer. Lui, il a besoin de toi, mais est-ce que t'as besoin de lui ? Les syndicats collabos, bousillez. Leur garde est sourd, bousillez. Le cadre et les ordres, ouais, bousillez. Et regarde les sombres et bousillez. On arrondit les angles, prends des pincettes. Parce qu'on a rendu les armes en échange des assiettes. On s'émerveille de les voir chier dans la gamelle. Content de pouvoir bouffer les selles sans payer la cabelle. Ça roucoule, ils avancent, on recule. Le recul, ça rend cool, ouais, sans rancune. On fait la paix, mais ce n'est qu'un écran de fumée. Non, c'est pas le calumet qu'on devrait fumer. Y'a déjà rien dans nos sacs et on se lime les dents. Pendant qu'on tient à la baraque, ils vivent dedans. Même si c'est un droit qu'on les signe nos gouvernements. J'invite pas à la haine mais au renversement. La finance et sa thune, bousille-la. L'allégeance est absurde, bousille-la. La présidence c'est de la flûte, bousille-la. Ouais, sans méchanceté aucune, bousille-les. Des flammes
paraît que c'est purificateur. Et puis ça manque de barricades, mais ils sont où les agitateurs? Tu frappes pas la queue devant la cave s'il y a plus des braises. Mais avec les cendres, on fera des grâces sur les murs qui restent. Quoi devant la télé, qui se débranchera pas seul. Il est grand temps de l'enfoncer dans leur grande gueule. C'est ça un geste citoyen, c'est pas voter pour des bourges. La justice fera rien, elle est pensée pour créer un bouge. Tu crains quoi? La milice, ta milice c'est toi. Y'a toi qui t'amenuise et minimise tes choix. Et quoi, y'a des risques, mais c'est la guerre qu'ils veulent. Et je crois pas que ce soit pisse de se faire la guerre tout seul. Les débats, les ministres, bousillez. La loi qu'ils érigent, bousille-la. Le Sénat, l'hémicycle, bousille-le. On reste là, permissif, et tu te bousilleras.
Bien entendre Ashton Bousille et l'émission, cette première émission de rentrée touche à sa fin. Aujourd'hui, vous l'avez entendu, c'était une co-animation un peu différente de d'habitude puisque Camille n'est pas là. Donc on a essayé d'assurer ça avec toute l'équipe, un peu en autogestion comme on dit. Hein. Moi, j'avais envie de peut-être faire un petit bilan de l'émission, peut-être aussi un petit bilan de notre été. Ça m'a fait penser à plein de choses, les discussions qu'on a eues, les différentes présentations, Marc-André sur la lutte du peuple atikamek, Émilie sur ce qui se passe au campement contre Junex, puis Adam avec les piquets de grève du Bas-Saint-Laurent. Cet été, j'ai été sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, un mouvement d'opposition à la construction d'un aéroport dans l'ouest de la Bretagne. Dans l'ouest de la France, en Bretagne. Et il y avait beaucoup de choses en commun, de quelle façon est-ce que les risques environnementaux et sociaux sont extrêmement liés, et c'est quelque chose sur lequel on peut jouer pour mettre les populations de notre bord et faire de l'opposition contre ces projets-là. Voilà, moi c'était ma petite réflexion, je sais pas à quoi vous a fait penser cette émission aujourd'hui. Il nous reste quelques minutes à tuer, je sais pas si vous aviez des choses à ajouter, Adam.
Ben moi, vu que t'es allé à Notre-Dame-des-Landes, là, comment t'as trouvé ça, la ZAD? Je veux dire, c'est combien de personnes qui sont là?
Ben, c'est une zone assez importante. Hein. C'est, je sais pas, environ 20 km sur 10. C'est quand même assez gros. Puis, il y a environ 300 personnes qui vivent là à temps plein. Mais il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui se mobilisent, notamment l'été, où il y a des gros chantiers qui sont menés. Chantiers de construction, chantiers de rénovation, entretien de la zone. En fait, la zone, elle est quasiment... elle est complètement autogérée par ses habitants aujourd'hui. Puis, on arrive aussi à un moment charnière un petit peu parce que probablement que le projet d'aéroport va être abandonné. Puis là, la question qui se pose, bah, c'est comment cette zone-là reste celle des ZADIS, celle des occupants et des occupantes. Comment ils peuvent prendre le lead, continuer de gérer la zone, tout ça. Donc le projet d'aéroport, c'est quasiment enterré. Ça risque d'être annoncé cet hiver. Pour le reste, c'est une nouvelle lutte qui s'ouvre. Voilà.
Super. Merci.
Ben on a presque terminé. Je vais te laisser conclure, Émilie.
Oui, ben on espère aussi qu'avec les différents campements qu'ont les hydrocarbures, qu'on va réussir à stopper les projets des compagnies pétrolières. Donc, vous écoutiez Action en direct. C'était notre émission de la rentrée. Vous pouvez nous écouter en rediffusion sur choc.ca et télécharger notre émission. Ou nous suivre sur les réseaux sociaux sur notre page Facebook Action en direct. On se retrouve dans deux semaines pour une autre émission.
We declare.
Nous déclarons.
Our right.
Notre droit.
To be given the rights.
À jouir des droits.
Of a human being.
D'un être humain.
To be respected.
À être respecté.
As a human being.
En tant qu'être humain.
In this society.
Dans cette société.
On this earth.
Sur cette terre.
In this day.
Aujourd'hui même, toute chose que nous avons l'intention de faire exister, tous les moyens nécessaires.
Эх, разлетались кудры рассыпную, на доме лунка мучила его. И на беде он синюю стеклую, а в той доли
ni vide ni chez moi, ni la misère.